automobile. Chronique. Chronique. De. Chronique. Automobile. De. Radiophonie.
J'ai entendu. J'ai entendu. Ping. Ah. Ah ben voilà. Voilà.
Un
regardez
show.
Ce travail.
Et un mode.
Là-bas, ça m'a pas entendu.
Voilà, un chat nouveau encore
en face. Allez, madame. Comment voulez-vous?
Chronique automobile et radiophonique de l'info kiosque. Rendez-vous hebdomadaire avec l'info kiosque dans De bruit et de fureur sur Radio Usine.
La persistance de la question palestinienne de Joseph Amassad a été éditée aux éditions La Fabrique en 2009. Il a été traduit de l'anglais, langue dans laquelle il a été écrit originalement. Le livre se décompose en deux parties. Première partie a pour titre La persistance de la question palestinienne. Et la deuxième partie, oublier le sémitisme. Il s'agit d'un texte académique, à premier abord, puisque Joseph Amassad est professeur à Columbia, à New York. Il a été le disciple de Edward Said, un des fondateurs des Postcolonial Studies et l'auteur notamment de l'orientalisme. Comme la Haskalah, le sionisme avait adopté la pensée des Lumières européennes et surtout allemandes comme mode d'évaluation de la judéité et du judaïsme qu'il chercha à transformer pour les y intégrer. Ce n'était pas tant que les antisémites eussent tort de l'avis de Herzl, qui trouvait par exemple que les juifs français avaient en effet
de gros nez difformes, des regards rusés et fuyants,
et qu'ils parlaient un allemand dégradé,
les langues clandestines des prisonniers,
comme il l'écrit dans l'État juif. Le problème était plutôt que les antisémites ne proposaient pas de solution à cette vile condition juive. Le sionisme épousait cette vision des juifs tout en étant conscient de son pédigré antisémite. Il voulait seulement débarrasser les juifs de ses traits et leur apprendre à être des Européens. Tout en faisant leur les objectifs des maskilim et autres assimilationnistes juifs pour qui il s'agissait de faire disparaître la marque de l'altérité juive, le sionisme s'en distinguait en affirmant que les chrétiens européens ne permettaient jamais aux juifs de prouver qu'ils pouvaient devenir des Européens en Europe. La solution semblait alors évidente. Le sionisme, pour reprendre les termes de Herzl, fonderait pour les juifs un État qui constituerait
un morceau du rempart contre l'Asie, la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie.
Comme l'annonçait son roman Altneuland, cet État abattrait les Européens à leur propre jeu civilisationnel. La colonie du peuplement serait le lieu de la transformation des Juifs. Pour devenir Européens, les Juifs devaient quitter l'Europe. Ils pourraient y revenir et en faire partie intégrante à condition d'en imiter la culture à distance géographique. Les Juifs avaient été asiatiques en Europe, ils deviendraient Européens en Asie. Herzl déclare qu'il n'est pas question de leur faire quitter
la civilisation pour s'en aller dans le désert.
Mais plutôt que la transformation
s'effectuerait en pleine civilisation. On ne descend pas à un degré inférieur, on s'élève au contraire.
Dans la nouvelle colonie de peuplement, les Juifs ne seraient plus
sales, rusés, parasitiques, paresseux, superstitieux, faibles, efféminés.
Suivant la vision de l'antisémitisme et du sionisme, mais zélés, doués d'esprit scientifique, forts, rationnel, propre et civilisé. En un mot, européen. Sémites et antisémites. Si la désignation sémite a été précisément une ruse pour désigner l'autre du sémite, son supérieur arien, il devient alors, semble-t-il, impossible de distinguer le sémitisme de l'antisémitisme. Un même acte consiste à inventer le sémite et à faire du porteur de cette identité l'autre. C'est l'acte qui crée l'antisémite. De ce point de vue, le sémitisme a toujours été de l'antisémitisme. La ruse de l'antisémitisme est de nous faire croire qu'il y a un écart historique, une sorte de chronologie conceptuelle selon laquelle le sémite existe avant le sémitisme et le sémitisme avant l'antisémitisme. Je me propose de montrer ici que cette historicisation est elle-même un effet du discours sémitiste. C'est ce que Arendt n'a pas vu dans son historiographie de l'antisémitisme. Considérons donc la manière dont le sémitisme se rapporte aux juifs comme un point d'entrée pour comprendre comment les Palestiniens figureraient dans cette histoire. À la lumière des études sémitiques et à partir de leur taxinomie, le sentiment anti-juif prend au XIXe siècle la forme d'un édifice idéologique très abouti d'altérisation qui se donne le nom d'antisémitisme. Par contraste avec le sémitisme, inventé par une certaine classe d'intellectuels qui étaient des savants et des philologues, l'antisémitisme fut, lui, inventé par des intellectuels issus de professions politiques et journalistiques. Le terme est forgé en 1879 par un journaliste viennois mineur du nom de Wilhelm Marr et apparaît d'abord comme un programme politique intitulé « La victoire du judaïsme sur le germanisme ». Marr prend soin de découpler l'antisémitisme de l'histoire de la haine chrétienne des juifs basée sur la religion et souligne, en phase avec les études sémitiques et les théories raciales en cours à l'époque, que la distinction à faire entre juifs et ariens est strictement raciale. Parmi les victimes du sionisme et de l'antisémitisme, Joseph Massad n'oublie pas les juifs arabes.
Soucieux du risque d'affaiblissement de la métamorphose culturelle des juifs ashkénazes par les juifs marocains, David Ben-Gourion déclara
« Nous ne voulons pas que les Israéliens deviennent des arabes. Nous sommes tenus de lutter contre l'esprit du Levant qui corrompt les individus et les sociétés et de préserver les valeurs juives authentiques telles qu'elles se sont cristallisées dans la diaspora européenne. »
En 1949, le journal Haaretz s'inquiéta de ce que certains juifs arabes se trouvaient
à un niveau encore plus bas que celui que nous connaissions par les anciens arabes d'Eretz Israël.
Toute une opération culturelle de civilisation des juifs non européens fut élaborée pour leur
développement
sans beaucoup de succès.